BPM, élection municipale 2020.
8h36, bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Le second tour des élections municipales aura lieu dimanche. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour les villes de Limay et Mantes-la-Ville sont venus répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous recevons le dernier candidat pour Mantes-la-Ville, arrivé second au premier tour, Samy Damergie. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors, vous êtes âgé de 55 ans, vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics, vous conduisez la liste sans étiquette l'Union pour Mantes-la-Ville. Alors, vous êtes soutenu par La République En Marche, par le Modem, entre autres, hein, par le président du Conseil Général Pierre Bélier, et également, c'est assez rare, par le président du Sénat Gérard Larcher. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Bon, alors, on rappelle les scores du premier tour. Cyril Nôtre est arrivé en tête avec 33,72%. Vous, deuxième, avec 27,21%. Amitis Metzdaghi, troisième, avec 17,75%. Romain Carbone, quatrième, avec 14,81%. Et Éric Vizatener, avec 6,48%. Alors, Madame Metzdaghi et Romain Carbone se sont désistés pour faire, je cite, barrage au Rassemblement National. Monsieur Carbone, ne voulez pas réitérer les mêmes erreurs qu'en 2014. Vous, Samy Damergie, vous êtes arrivé deuxième de ce premier tour. Est-ce pour vous un bon résultat ?
Alors évidemment, c'est un bon résultat dans la mesure où, parmi tous les gens que vous avez cités, nous, c'est une liste sans étiquette, avec une existence. On s'est déclaré au mois de novembre 2019. Je ne suis pas un homme politique. On est soutenu par aucun parti. C'est une liste citoyenne qui a été conduite et qui s'est étoffé au fur et à mesure, et on se retrouve après, juste après au niveau des scores, juste après le maire sortant, et bien avant, parce que vous avez vu les écarts, donc avec le troisième et de environ 10 points, donc on se retrouve bien devant l'ensemble des autres partis qui sont en place et qui sont dans soit à l'opposition, soit aux manœuvres depuis une quarantaine d'années.
Alors, comment avez-vous abordé ce second tour dans des conditions particulières ? Parce que le premier tour, c'est déjà il y a plus de 3 mois. Hein.
Complètement. Donc, effectivement, on a eu cet arrêt dû à la pandémie. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement gelé nos activités au niveau de la campagne. Les sujets étaient beaucoup plus importants, les sujets sanitaires. On est resté, je dirais, avec une veille sur l'ensemble des éléments qui se déroulaient au cours de cette période, et notamment sur la ville de Mantes-la-Ville.
Alors, on va parler de quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, les distributions de masques. Voilà, il n'y a qu'à Mantes-la-Ville où on en parle beaucoup. Dans tout le reste du département, on n'en parle pas trop. Alors, Cyril Nôtre, on vous reproche d'être trop proche du collectif l'Union d'entraide citoyenne qui a distribué des masques.
Oui, en effet, j'ai entendu ça et ça me fait doucement rigoler, si vous me permettez l'expression. Le maire est en train de pointer, en train de dire, écoutez, voilà, mon opposant est éventuellement derrière cette distribution de masques. La vraie question, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on a besoin de masques ou pas ? Et la seconde, qui vient juste derrière, c'est est-ce que la mairie a fait ce qu'il fallait pour que les masques soient distribués ? La réponse, c'est non. En effet, on a, nous, un nombre de sympathisants qui n'a cessé d'augmenter. Et bien évidemment, dans ce collectif, nombre de personnes font partie de nos sympathisants. Nous, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est aiguiller la ventilation de ces masques qui provenaient du département, en réalité, vers des associations, et notamment ce collectif qui a distribué.
Alors, toujours sur le chapitre de la pandémie, les écoles ont réouvert progressivement. Là, le 22, ils ont réouvert complètement. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'elles auraient dû être ouvertes plus tôt ? Hier, Cyril Nôtre nous a dit qu'elles étaient ouvertes le 2 juin.
Non, elles n'ont pas été réouvertes le 2 juin. Il a même fait un courrier pour dire que, justement, le 2 juin, il y avait un droit de réserve qui était exercé par les enseignants. Et donc, elles n'ont pas rouvert le 2 juin, elles ont rouvert le 22. Bon, des mesures, je dirais, au niveau de la mairie ont été prises par rapport au personnel. Donc, je peux comprendre. À mon avis, les familles n'étaient pas non plus disposées à mettre en place, à laisser leurs enfants aller en cours si les dispositions sanitaires n'étaient pas adéquates. Ce qui n'était pas non plus une certitude.
Ah ben, à l'époque, le 11 mai, non, c'est sûr. Et voilà. Début juin, ça l'était Un peu plus, mais pas beaucoup plus. Alors, selon vous, hein, vous êtes chef d'entreprise, quelle va être sur l'économie cette crise, qu'est-ce que ça va donner? Parce que...
Écoutez, Frédéric, c'est une crise mondiale. L'économie s'est arrêtée pendant 2 mois et demi. Comme vous le dites, je suis chef d'entreprise, ce qui veut dire que là, pendant 2 mois et demi, je n'ai pas pu, moi, avoir d'activité, je n'ai pas pu facturer. Or, les charges couraient. Alors certes, il y a un décalage au niveau du règlement de ces charges, mais elles restent dues, elles ne sont pas effacées. Or, en face, on n'a pas de recettes. Donc, nombre d'entreprises, à mon avis, vont déposer le bilan. Vous voyez qu'il y a des entreprises très importantes.
Renault, qui veut restructurer, déjà, 1000 personnes en moins dans le Mantois.
Effectivement, il y aura un impact local, c'est évident. Maintenant, les entreprises, heureusement, je dirais que chez Renault, il y a un actionnaire principal qui est l'État, et qui fait que donc il peut réinjecter des capitaux propres pour maintenir d'une manière globale, s'entend, l'emploi. Néanmoins, ils sont obligés de lâcher du lest par endroit, et malheureusement, Flins, ça en fait partie. C'est un impact effectivement sur Mantes-la-Ville, puisqu'on a beaucoup d'habitants qui travaillent à Renault Flins.
Et vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez fait du chômage partiel ?
On a fait du chômage partiel. Moi, je travaille dans le BTP, donc il était impossible de conduire des opérations, ne serait-ce que dans les vestiaires, les réfectoires. La distanciation n'était pas possible avec une 50aine de personnes. Ça n'est pas réalisable. Donc effectivement, on a fonctionné avec du chômage partiel sur 2 mois.
Alors on va revenir à la politique, le fameux débat de France 3, voilà, tout le monde en parle. On vous pose la question, à vous Samy Damiergi, pourquoi avez-vous refusé de débattre avec Cyril Naud sur France 3?
La réponse est très simple, c'est que le maire sortant n'a pas de visibilité, il ne se déplace pas sur l'ensemble de la ville, il va au centre-ville, il va au marché, mais par contre il y a des quartiers et des endroits de la ville qui ne visitent pas, dans lesquels pendant 6 ans, on n'a jamais pu le croiser. Donc un débat à 55 km de la ville, avec des questions posées par des journalistes, pour moi ça n'avait pas de sens, c'est une élection locale. Donc moi j'ai proposé au contraire, donc au maire sortant, 10 débats différents à 10 endroits différents de la ville, avec des questions posées, non pas par des journalistes, mais posées par les citoyens dans leur vie concrète.
Qu'il a refusé.
Jusqu'à maintenant, donc nous, en 11e, on a commencé, hein, et il ne nous a toujours pas rejoint.
Alors, on va parler de votre programme maintenant. Chapitre 1, vous souhaitez une ville plus dynamique et plus attractive, plus de dialogue, justement, on en parlait avec les entreprises, avec des structures mutualisées et la création d'un conseil économique. Mantes-la-Ville en a vraiment besoin de ce conseil économique?
Bien sûr. La ville est une ville, aujourd'hui, c'est une ville dortoir, une ville sans activité. Il y a quasiment, les commerces fonctionnent que dans la journée. Si quelqu'un, un couple veut prendre un repas, dîner, ils sont obligés de sortir de la ville pour faire des courses. Le marché fonctionne le jeudi et le dimanche, mais petitement, beaucoup vont faire leurs courses, soit donc dans la ville à côté, à Mantes-la-Jolie, soit parfois même encore plus loin pour faire acheter des achats donc chez les marques avenues ou des endroits qui sont beaucoup plus lointains. Il est évident qu'il faut relancer l'économie, l'attractivité de la ville. Le conseil économique en est une partie, mais comme on l'a marqué dans notre programme, notre axe de développement se regroupe autour de Mantes Université qui sera un pôle d'activité.
Oui, même encore maintenant après le Covid.
Alors, c'est dans notre programme. Il faudra relancer ça, bien évidemment. C'est un programme qui va se faire à longue haleine. Mais comme dans toute vie économique, malheureusement, il y aura des dépôts de bilan. Et bien heureusement, il y aura des structures qui vont se remonter.
Chapitre 2. Vous souhaitez une ville plus respectueuse de l'écologie et plus responsable.
Oui, on l'a compris. Là, vous voyez, on est tout début de l'été. On a des températures qui s'affolent autour du 35 degrés. Et je suis intimement persuadé, il n'y a pas besoin de faire de grandes études. Il suffit de suivre ce qui se passe et les scientifiques nous le montrent. La température de la Terre, d'une manière générale, ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si elle va baisser, c'est qu'elle continue à augmenter. Donc il va falloir se positionner par rapport à ça et réfléchir sur nos moyens donc de diminuer cette augmentation rapide et qui est catastrophique. Donc au niveau d'une ville, quel peut être l'impact ? C'est réduire en fait les déplacements thermiques, c'est thermique au niveau de la circulation, c'est faire en sorte que l'ensemble des bâtiments consomment de moins en moins d'énergie, donc mettre en place un certain nombre de choses. Par exemple, donc, on peut estimer que de notre côté, la délivrance des permis de construire sur des bâtiments neufs imposerait donc une isolation thermique sur l'ensemble des façades et une isolation des combles, ce qui réduirait de manière importante la déperdition thermique et énergétique.
Peut-être qu'un jour, le boulevard Salengros circulera mieux, il y aura moins de voitures, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, il deviendra piéton, je ne pense pas, mais en tous les cas, on peut l'espérer. On va parler maintenant des associations. Côté associatif, Mantes-la-Ville n'est pas une ville en reste. Hein. Il y a beaucoup d'associations. Vous souhaitez soutenir plus activement les associations, créer une maison des associations et également les incorporer à plus d'animation. Vous voulez redynamiser un peu
Alors oui, Frédéric, en fait, là, lorsque vous dites que la ville n'est pas en reste, attention, il faut regarder un petit peu les chiffres. C'est, la ville n'est pas en reste parce que beaucoup d'associations se sont montées après 2014 pour compenser les manques d'aide de la mairie. Il faut regarder ensuite le total des subventions attribuées par la mairie à ces associations.
Donc, elles ont baissé depuis 6 ans.
Elles ont baissé de manière drastique. J'ai, comme vous l'avez dit, été président d'une association
du
FC Mantois, donc sur laquelle il y avait une subvention de près de 80 000 euros qui a été retirée au bout de 2 ans. Et donc cette association a dû fonctionner autrement. Avec 80 000 euros en moins sur un budget de 750 000, effectivement, ça fait mal. Les autres associations également ont été en reste. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a retiré des subventions. D'autres se sont montées pour compenser, et donc notamment les aides aux devoirs, notamment des sorties, mais uniquement attribuées aux adhérents de ces associations.
Alors, vous voulez également, je vous le disais hein, dans ma question, les incorporer avec plus d'animation dans la ville. Vous voulez par exemple refaire une fête du 14 juillet, vous voulez faire un marché de Noël, vous voulez redynamiser un peu Mantes-la-Ville.
Voilà. Nous, la première des choses qu'on veut remettre en place, c'est après 6 ans d'isolement total de la ville, c'est remettre de la cohérence sociale, de la cohésion sociale. Nos premiers axes, on l'a toujours dit, c'est de remettre en place les centres de vie sociaux, les CVS. Il y en a 3 historiquement dans cette ville. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un qui vivote à peu près au quartier des Merisiers. Nous, ils fonctionnaient auparavant, on veut les remettre en place, rien de miraculeux, hein, c'est juste en fait de redonner du budget et redonner un sens, et que chacun de ces CVS soit dirigé par des gens du quartier, appuyé, adossé avec une médiation de quartier, et c'est là que la cohésion sociale donc, pourra reprendre par quartier, et ensuite entre les quartiers. Et entre les quartiers, donc, c'est remettre en place des choses également qui existaient, les fêtes de la musique, fêtes interquartiers, marché de Noël. Bien évidemment, tout ça a un sens, ça s'appelle la cohésion sociale.
Alors, on va essayer de faire un petit tour intergénérationnel. Pour les enfants, vous voulez créer là un groupe scolaire à Mantes Université, c'est bien ça ? Parce que oui. Mantes-la-Ville en a vraiment besoin.
Complètement. Alors, aujourd'hui, il y a un groupe scolaire qui a été lancé par le maire actuel donc au parc de la Vallée, ce qui est pour nous une ineptie. C'est le parc de la Vallée, c'est un des seuls poumons verts de la ville. La circulation y est déjà actuellement très compliquée aux heures de pointe. Le fait de rajouter une école à cet endroit-là, ça deviendrait complètement ubuesque au niveau de la circulation, mais également donc au niveau comme je le disais, de la verdure. On parlait tout à l'heure de l'écologie. Il y a un projet qui avait été lancé auparavant à Mantes Université. Ça a un sens de le remettre donc cette école là-bas. Évidemment, si on est en charge, on arrêtera le projet actuel pour le remettre en place et le redévelopper donc à Mantes Université. Il y a un besoin d'école.
Alors pour la jeunesse, vous parliez tout à l'heure de remettre les CVS en route. Pour la jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux jeunes mantevilloises et mantevilloises ?
Alors, on a beaucoup de choses. Hein. Les CVS donc, permettent une, donc, une, une activité pour les jeunes, mais pas que les jeunes. Il y a également les quadras, il y a également les personnes âgées. Centre de vie sociale, c'est son nom l'indique. Ça n'est pas que la jeunesse. Néanmoins, la ferve, le sang, ça y est, par la jeunesse. Tout commence à ce moment-là. En 2014, lorsque le maire a réduit, comme je le disais tout à l'heure, les dotations aux associations, mais également au CVS, un jeune qui avait 12 ans à l'époque et qui en a aujourd'hui 18, finalement, n'a pas eu la possibilité d'avoir d'activité. Il a dû construire son adolescence avec rien du tout, ce qui est tout juste impossible. Ce qu'on veut refaire, c'est remettre en place cette possibilité pour que les jeunes aient des activités qu'ils choisissent. Ça peut être une aide à la construction d'un curriculum vitae, ça peut être des sorties, et tout ça également animé, comme on le disait tout à l'heure, par les associations, qui sont un relais entre la municipalité et la population, au travers des CVS notamment.
Alors, et pour les seniors ? Parce que les seniors, là, il y a eu un gros coup de projecteur dessus, hein, suite au Covid. Il y avait des personnes qui étaient seules, des personnes un peu vulnérables. Qu'est-ce que vous comptez faire ?
Alors, effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, hein, parce que lorsqu'on parlait de distribution de masques au travers d'un collectif, ça a été pointé par le maire, donc voilà, on a répondu sur la question. Néanmoins, ce collectif a mis en exergue un autre aspect, c'est que les personnes âgées, donc ne pouvaient pas se déplacer, évidemment, pendant cette pandémie, ce collectif a distribué un certain nombre de repas, a collecté des repas, et on s'est aperçu qu'il y avait un lien intergénérationnel qui avait fondu, et là, qui pouvait reprendre très facilement. Donc ce sont des choses qui doivent être organisées. Lorsqu'on parlait des CVS, on parle de la jeunesse bien évidemment, mais on peut parler des personnes âgées, c'est organiser des sorties, le bal des anciens, enfin plusieurs activités qui peuvent être remises en place et qu'on remettra en place.
Alors on va passer au chapitre finance maintenant. Vous vous engagez à une pression fiscale limitée et contenue. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire augmenter les impôts, mais pas trop ?
Merci Frédéric.
Non, je pose la question parce que je l'ai lu et je me suis dit, mais ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'en tout cas, la première année, voire la deuxième année, nous n'augmenterons pas les impôts. Nous, ce qu'on va faire, c'est rechercher des financements au travers donc, des partenaires, retisser donc, un lien avec les partenaires qui sont incontournables en réalité d'une municipalité. Ici, ça sera avec nous, le premier, ça sera la GPSO, donc le regroupement de communes sénéoise, ensuite le département, la région, l'État, voire l'Europe. Donc on va aller chercher des financements à chacun de ces étages, ce qui permettra donc de pouvoir développer la ville avec une mise de départ minimisée de la commune.
On va passer au chapitre sécurité, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quelles seront vos actions concrètes pour lutter contre les incivilités à Mantes-la-Ville ?
Aujourd'hui, donc le maire actuel avait beaucoup communiqué en 2014 sur le sujet, l'aspect sécurité. Donc il a mis en place un certain nombre de caméras. Ces caméras sont inopérantes. Il y a des endroits sur lesquels les images sont inexploitables. Les points visés ne sont pas forcément pertinents. Et surtout, les images arrivent dans un bureau où il n'y a personne pour les traiter. Donc ça, c'est totalement inefficace. Une population de notre ville comprend plus de 20 000 habitants. Il y a une étude qui a été faite que dès lors qu'on dépassait 10 000 habitants, il fallait environ un policier par tranche de 1 000 habitants, ce qui veut dire qu'il en faudrait à peu près 20 aujourd'hui sur Mantes-la-Ville. Or, il y en a 9, dont 5 sont en arrêt maladie permanent. Ça veut dire qu'il y a 4 policiers qui tournent sur l'ensemble de la ville. C'est très largement insuffisant et bien évidemment inefficace. Ce qu'il faut faire, c'est que donc nous, on rajouterait un certain nombre de policiers pour arriver à une douzaine à peu près, et adossé à la médiation dont on a parlé rapidement autour des CVS, tout ça pour donc diminuer, aplanir les soucis dans les quartiers et au sein des quartiers. C'est là qu'on arrivera à diminuer donc le nombre d'incivilités.
Dernière question, il nous reste une minute, vous souhaitez une ville plus participative ?
Oui.
Alors, ça veut dire quoi une ville plus participative ?
Alors, notre axe de développement au départ, c'est de remettre en place de la cohésion sociale. Moi, je pense, enfin, comme partout, que ce soit votre boulot, que ce soit n'importe laquelle de vos activités, pour sentir bien, donc il faut avoir une cohésion sociale. Dès lors que cette cohésion sociale est remise en place, eh bien, l'activité, elle, va reprendre de tout naturellement. La participation de chacun, donc lorsqu'on dit qu'on va aider des associations, les associations ou un collectif, comme on l'a eu pendant la pandémie, sont des initiatives citoyennes et la mairie sera là pour les aider donc, à poursuivre leur initiative dès lors qu'elle a un intérêt pour la commune ou pour un collectif. Et c'est là que la participation est importante parce que c'est un moteur de la cohésion sociale.
Vous allez demander, par exemple, si vous avez un projet, faire par exemple demander l'avis au Mondevillois, comme il se fait dans plusieurs villes, un espèce de référendum sur des projets.
Alors, oui, on ne le fera pas sur l'ensemble, parce qu'à un moment, il faut être également dans l'action, et donc il faut être dans la décision pour avancer. Mais on peut estimer, par exemple, là, il y a un sujet qui s'appelle l'urbanisme et les problèmes de circulation. C'est une ville, lorsque j'y suis arrivé, qui comptait 18 000 habitants. Aujourd'hui, on a presque 21 000, avec donc 3 000 habitants de plus. Mais ces 3 000 habitants arrivent avec une, deux, trois voitures en plus. Et donc, on a forcément des problèmes de circulation. Là-dessus, chacun des quartiers a des impacts différents. On fera participer l'ensemble de la population donc à une réflexion autour de ce problème de circulation et de stationnement.
Merci Samy Damerji d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous.
Cette émission sera rediffusée à midi et 18h et vous pourrez retrouver le podcast sur le www.bpmlaradio.com. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élection municipale 2020.